en allumant votre radio. C'est quand Michael Jackson était encore noir. The Cure.
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Les Canu Info,
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue dans ce Canu Info. Il est 19h passé de 8 minutes. Et
oula,
nous sommes
Mayday, t'es en retard.
Là, plus que du retard. Et nous sommes donc le mercredi 27 février 2018. Et quels sont les titres du jour?
Eh bien, les élections présidentielles en Algérie, c'est au mois d'avril, mais le président et candidat Bouteflika sera-t-il encore vivant pour sa réélection?
Et au Sénégal, le Sénégal est actuellement en attente d'un président.
Aux États-Unis, abus sexuels sur des mineurs migrants.
En Guyane, des étudiants étrangers dans le viseur de la PAF, qui est la police aux frontières.
Monde de merde quand des riverains s'opposent aux migrants.
Et nous finirons par les sales chômeurs de la France.
Ah, je commence alors. C'est au peuple algérien et à lui seul qu'il revient de choisir ses dirigeants, de décider de son avenir, et cela dans la paix et la sécurité. Nous formons le vœu que cette élection donne à l'Algérie l'impulsion nécessaire pour faire face aux défis qui sont les siens et pour répondre aux aspirations profondes de sa population. C'est ce que c'est la déclaration enflammée de Benjamin Griveaux aujourd'hui à la sortie du Conseil des ministres en France. Et donc c'est la France qui prend position d'une manière ferme et décidée sur les événements en Algérie. Alors on pourrait quand même faire remarquer à Benjamin Griveaux que la meilleure solution quand on n'a rien à dire, c'est encore de fermer sa gueule. Mais c'est vrai que la France s'est toujours fait remarquer pour son soutien au peuple en quête de liberté dans le monde entier. Elle a toujours fini par lâcher les tyrans, en tout cas une fois que ces tyrans sont réellement bel et bien morts et enterrés. Et là, bon, il est vrai que Bouteflika est peut-être encore plus ou moins vivant. Alors, il ne faudrait pas non plus trop précipiter les choses pour des histoires de diplomatie et tout ça et tout ça. Bon, en réalité, qu'est-ce que c'est l'information aujourd'hui? C'est que le pouvoir algérien n'en dit rien du tout. La direction des hôpitaux universitaires de Genève refuse de le confirmer, mais ça semble quand même assez certain. En tout cas, la tribune de Genève, par exemple, considère ces informations comme absolument sûres. Bouteflika est en ce moment, au moment où je vous parle, à l'hôpital en Suisse. Les hôpitaux universitaires de Genève, situés au cœur de la ville, disposent d'une division privée qui offre aux VIP toutes les conditions de sécurité et de discrétion souhaitées. Et alors là, je vais vous dire qu'il en souhaitait de la discrétion. Bon, ça n'a pas entièrement réussi, mais... Et donc, pour l'Algérie, la question n'est plus, et depuis bien longtemps, de savoir si Bouteflika est capable de gouverner l'Algérie depuis son AVC en 2013. Alors bon, en résumé, il apparaît à peu près plus, il ne parle plus du tout en public, c'est une sorte de momie, et les avis sur son degré de conscience varient selon les commentateurs, difficile d'être certain, sur savoir par exemple si c'est encore comment il s'appelle. Il a quand même été capable, aux dernières élections en 2014.
D'aller voter.
Tout à fait. Alors bon, très précisément, il est arrivé sur son fauteuil poussé par une infirmière ou je ne sais qui. On lui a mis dans la main une enveloppe avec un bulletin. On l'a aidé, on a soutenu son bras pour qu'il approche sa main de l'urne. On a écarté ses doigts pour qu'il lâche l'enveloppe. C'est comme ça qu'il a voté. Il y a une semaine, il a malgré tout annoncé son intention d'être candidat aux prochaines présidentielles. Alors, quand on dit qu'il a annoncé son intention, il faut bien comprendre que c'est le soir au JT qu'un message a été lu par le présentateur, message venant du président, par lequel il se déclarait candidat. Pour le coup, les Algériens et les Algériennes, qui avaient pourtant alors complètement laissé pisser en 2014, semblent quand même massivement trouver que ce coup-ci, on se fout un petit peu trop de leur gueule. Et donc, vendredi dernier, première manifestation, des centaines de milliers de personnes dans les rues, pas un mot dans les médias algériens, pas un. Même si nous, de ce côté de la Méditerranée, on sait que les journalistes, par exemple, de la radio publique ont lancé un mouvement de protestation contre cette interdiction de couvrir les événements. Donc vendredi, première manifestation. Dimanche, nouvelle manifestation. Cette fois-ci, les flics chargent, frappent, arrêtent des gens. Lundi, c'est les avocats qui défilent contre la nouvelle candidature de la vieille momie. Et hier, les étudiants. À Alger, les flics essayent de les empêcher de pénétrer dans l'université. Une fois que les étudiants sont rentrés quand même, ils essayent de les empêcher de sortir. Alors bon, il y a un article dans Le Monde, par exemple, qui raconte la manifestation. C'est vraiment plein de petits événements, de chaînes sur les portes, de cadenas pétés, de machins comme ça. Après, quand les étudiants sont quand même sortis, ils les empêchent d'avancer dans les rues. Mais bon, de toute façon, la foule est gigantesque, c'est peine perdue. D'autres manifestations ont lieu dans tout le pays. Oran, Tlemcen, Mostaganem, Tiaret, Batna, Bouira, Tizi Ouzou, Annaba, Constantine, ou encore Ouargla et Tamanrasset. Globalement, des manifestations relativement calmes. Et en tout cas, ça a l'air d'être une grosse... Bon, alors, vu de loin, c'est quand on voit des manifestations de près, on voit que quand il y a plein de gens qui crient pas de violence, c'est pas forcément la voix de tous les manifestants. Là, ça a quand même l'air d'être assez partagé, le truc de tenir, en tout cas pour l'instant, à manifester de manière extrêmement calme.
Oui, puis les gens, ils veulent juste que Bouteflika ne se présente pas et qu'il meure tranquillement.
Il faut dire quand même que ça fait 20 piges qu'il est au pouvoir. Et donc que ça fait depuis 2013 qu'il n'est plus en état
de
rien.
Oui, et puis les dernières élections, c'était déjà une vaste blague. Tout le monde, tous les Algériens se demandaient pourquoi il s'était réélu.
À l'époque, certains se demandaient s'il avait été empaillé et qu'on avait mis un petit, des sortes de petits fils ou quoi pour le faire bouger. En tout cas, il était guère plus vaillant que ça. Hein. Aujourd'hui, pour la première fois depuis vendredi, la radio et la télévision nationale ont mentionné vite fait les rassemblements. Et donc l'info du jour, on a bien dit, c'est donc la confirmation qu'il est en Europe, qu'il est à l'hôpital, qu'il est en Suisse. Et il y a eu une sorte de conférence de presse entre des opposants, un ancien ministre du FLN, un ministre du Trésor, qui nous dit, pour le coup, qui a fait une conférence étonnamment avec un ancien gars du FIS. C'est-à-dire que le FIS, c'est le Front Islamique du Salut. C'est les gens qui avaient... ça a été le seul parti, en réalité, qui a réellement essayé de gagner des élections face au FLN en 1992. Bon, c'était pas du tout des rigolos. Hein. C'était des... Alors, c'était pas des djihadistes non plus, mais c'était quand même des gens qui voulaient appliquer la charia. Ça allait pas rigoler en Algérie s'ils passaient. Toujours est-il que après un premier tour où ils avaient eu plein de voix, l'armée était intervenue et avait empêcher le second tour. Et donc ce Ali Benouari, qui a aujourd'hui fait une conférence de presse avec un gars du FIS, lui était à ce moment-là du côté de l'armée, c'est-à-dire que là, contre Bouteflika, il y a quand même des gens d'une manière extrêmement large, qui sont prêts à s'asseoir ensemble à une tribune, alors que vraiment c'est des gens qui se détestent historiquement. Quoi. Ah pardon, je croyais que tu voulais parler. Et donc Ali Benouari, lui, il nous explique que le président est arrivé à l'hôpital avec son frère Saïd Bouteflika et je ne pense pas, dit-il, qu'il pourra repartir rapidement en Algérie. Il est à bout de souffle, il ne parle plus, il est en permanence sous perfusion. Et donc Ali Benouari, lui, est persuadé que de toute façon la candidature ne sera pas réellement déposée. Et la date limite de dépôt des candidatures, c'est le 3 mars. C'est-à-dire la semaine prochaine. Bon, depuis que Bouteflika a eu cet AVC, qui gouverne en réalité l'Algérie? Alors d'après l'unanimité des commentateurs, c'est une histoire de famille vraiment, essentiellement. D'abord et avant tout son frère cadet, Saïd Bouteflika, puis l'autre frère Nasser Habchi, chef de sa garde, et sa sœur Zohr, qui le couvre étant à la fois son intendante, sa cuisinière personnelle et son aide-soignante, et puis surtout l'appareil militaro-sécuritaire, éternel gardien du temple algérien et véritable dépositaire du pouvoir. Voilà, on va laisser la conclusion de toute cette histoire à ce journal africain, mais burkinabé, l'Observateur Paalga, qui nous dit « Pour un peu, on croirait Bouteflika victime de maltraitance gériatrique et d'abus en tout genre, car dans sa situation, il devrait être dans une maison de repos médicalement équipée, comme l'est d'ailleurs en réalité finalement la résidence présidentielle de la Zeralda, donc l'équivalent de l'Élysée à Alger. » Et se faire réélire doit bien être le dernier de ses soucis.
Canu Info. Du mercredi.
Et donc, on parle du Sénégal, puisque beaucoup de monde parie sur la réélection de Macky Sall depuis une semaine. Donc, je rappelle que le vote a eu lieu ce dimanche, 24 février, et que les résultats ne seront annoncés que demain ou vendredi. Donc il y a 5 candidats en liste, dont le plus sérieux qui va redevenir le président pour les pronostiqueurs de la politique sénégalaise, ça sera Macky Sall. Donc si l'élection s'est globalement bien déroulée, avec un taux de participation jugé satisfaisant, les bureaux de vote avaient à peine fermé dimanche soir que la polémique naissait sur l'éventualité ou pas d'un second tour. Donc les partisans de la coalition Beno Bok Yakar du président sortant étaient convaincus que leur champion avait réalisé le coup KO d'arriver au premier tour, alors que les autres, le duo Idrissa Seck et Ousmane Sonko, ne voyaient pas comment Macky Sall pourrait échapper à un second round qui s'avérait indécis pour lui. Donc depuis dimanche, Macky Sall multiplie les annonces dans le sens d'une victoire écrasante, alors que rien n'est fait, rien n'est dit. En fait, vous voyez, c'est des manières là de faire de cette sorte de politique politicienne pour un peu enflammer les foules. Mais alors, je vais revenir sur le pourquoi il est si sûr de lui de gagner dès le premier tour. Donc bizarrement, les opposants les plus sérieux au président se sont retrouvés mis hors jeu avant les élections. Donc il s'agit de l'ancien maire de la capitale, Khalifa Sall, et de Karim Wad, qui est le fils de l'ex-président, Aboulaye Wad. Tous deux ont vu leur candidature invalidée à cause de condamnations judiciaires récentes. Tiens, ce qui a mis en colère quand même un sacré paquet de gens avant les élections, parce que ça sentait cette manière d'évincer des candidats. Et donc, depuis l'éviction de son fils, Wad Père, l'ancien chef de l'État, aujourd'hui âgé de 92 ans, usait de toute son influence sur les électeurs sénégalais pour appeler à boycotter le vote de ce dimanche.
Alors, sur Abdoulaye Wad Père, c'est le seul président sénégalais qui soit parti de son poste suite à des élections, c'est-à-dire qui a été chassé par des élections et qui n'a pas tenu absolument à proclamer sa victoire contre toute évidence.
Et donc lui, il appelait à boycotter le vote de dimanche et à brûler sa carte d'électeur pour dénoncer le simulacre d'élection qui aurait lieu. Voilà. Mais donc selon l'Observateur Paalga, ce journal indépendant burkinabé, donc je cite. Wad apparaît finalement comme l'un des grands perdants de ce scrutin. Ses menaces de boycott et ses appels aux actes de vandalisme n'ayant pas été suivis par ses propres militants, outrés par ses propos inconsidérés. Donc pour n'avoir pas voulu trouver de candidat de substitution à son fils bien-aimé Karim, empêché de se présenter comme l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, Gorgui, au soir de sa vie politique et même de son parcours terrestre, a pour ainsi dire presque liquidé le Parti démocratique sénégalais, le PDS. Tout juste peut-il se consoler du fait que 3 des 5 prétendants à la magistrature suprême sont ses fils spirituels, même s'ils sont en rupture de banc, qu'il s'agisse de Macky Sall ou d'Idrissa Seck ou de Madike Niang. Ce dernier ayant été obligé de se présenter en indépendant faute de l'onction du PDS. Donc Dakar Actu, un journal sénégalais, poste donc la question, et si Wade Peer travaillait finalement à la réélection de Macky Sall. Bref, dans tout ça, c'est très politicard, on ne sait pas tous les enjeux, mais dans tous les cas, la réélection de Macky Sall semble être annoncée, à voir cependant s'il y aura un second tour, ce qui semble par contre bien parti. Et pour finir cette info, je voudrais mentionner que lors du scrutin de dimanche, 126 observateurs de l'Union européenne étaient présents et présentes pour s'assurer du bon fonctionnement de la sacro-sainte démocratie. Donc, j'espère qu'à la future élection en 2022 en France, 126 observateurs de toute l'Union africaine seront également présents pour s'assurer du bon déroulement du scrutin. Bon, vous voyez qu'en annonçant ça, on voit bien que ce parallèle ne fonctionne pas. Ça démontre bien que les actes coloniaux, ou que l'on peut aussi nommer infantilisants, sont encore d'actualité, sous couvert de préservation de la démocratie.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Aux États-Unis, il y a eu des abus sexuels sur des mineurs migrants. Donc ce sont plusieurs milliers d'enfants migrants qui se sont plaints d'avoir été abusés sexuellement dans des centres de rétention. C'est ce que révèlent donc des documents officiels rendus publics hier, donc mardi 26 février, par un élu démocrate du Congrès et diffusé par le site d'information Axios. Selon ces documents, le gouvernement américain a reçu plus de 5000 plaintes d'enfants détenus, se disant victimes d'abus sexuels entre 2014 et 2018. Les plaintes d'enfants retenues dans des centres de rétention américains rapportent donc des agressions sexuelles comme des attouchements forcés ou bien encore la présentation de vidéos pornographiques. Au total, 4556 plaintes ont été reçues par le ministère de la Santé et 1303 par le ministère de la Justice. La plupart concernent des faits qui auraient été commis entre enfants, mais quand même 154 sont des allégations d'agression sexuelle de mineurs sans parents par des employés adultes de ces centres de rétention. Donc 154, cela équivaut en moyenne à une agression sexuelle perpétrée par semaine par le personnel du ministère de la Santé sur un mineur non accompagné. Il n'y a pas que les prêtres et les parents qui abusent de leur autorité.
Canu Info.
En Guyane, des étudiants étrangers dans le viseur de la police aux frontières, la PAF. Donc selon la CIMADE, 21 étudiants et lycéens ont été enfermés au centre de rétention administratif. Donc en Guyane, il y a deux centres, je crois, de Rochambeau et de Matoury, depuis le début de l'année 2019. Deux d'entre eux ont été interpellés jeudi dernier, la veille de la marche contre l'expulsion des étudiants étrangers, appelés donc le mercredi dernier par RESF, l'UNEF et 6 syndicats, dont Sud, etc. Donc, en fait, ce qui se passe, donc le 18 décembre, la communauté éducative de l'Université de Guyane a réagi face à ce qu'elle décrit comme une recrudescence des arrestations de jeunes étudiants sans papier aux abords du campus de Troubiran. Les organisations demandent que les étudiants étrangers cessent d'être visés par ces arrestations et à ce que la carte d'étudiant permette de circuler comme les lycéens le peuvent grâce à leur canal de correspondance depuis 2006. Cette carte d'étudiant permet de vivre sur le territoire comme assister aux cours de l'université en toute sérénité, sans avoir peur de contrôle. C'est c'est censé être ça. Sauf que bah, la PAF patrouille aussi à l'université et empêche les étudiants de vivre et d'étudier sereinement.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Monde de merde, quand les riverains s'opposent aux migrantes, ça se passe où? Ça se passe... Allez, une petite devinette, ça se passe où, à ton avis?
Ça peut se passer à tellement d'endroits, en tout cas ça doit se passer en France. Quand on parle de riverains, c'est en France. C'est souvent des sales gens.
C'est à Calais. C'est à Calais, comme c'est tendu depuis des années et des années. Je pense que c'est une des zones depuis beaucoup d'années, est tendu sur les questions migratoires, et du coup ce qui fait que là, bah, de plus en plus des riverains de droite, d'extrême droite s'organisent contre des personnes migrantes. Donc depuis lundi soir, une dizaine d'habitants de la rue de Pontrouille ont déposé leur véhicule le long du parvis de l'église Sainte-Marie-Madeleine. Et pourquoi ils ont fait ça? Leur objectif est d'empêcher la distribution de vêtements aux migrants qui a lieu chaque soir depuis 3 semaines. Donc aucun associatif ne s'était présenté lundi, mais donc hier mardi vers 18h, une camionnette s'est installée et une dizaine de migrants sont arrivés dans la foulée pour récupérer des vêtements d'hiver. Nous sommes en hiver, il fait froid, les personnes dorment dans la rue. Donc un habitant dont la maison est à 50 mètres de l'église explique, je le cite, « Nous ne sommes pas racistes, mais il y a d'autres lieux pour que les distributions se fassent. Pourquoi c'est en plein quartier ?» La police a rappliqué dans la foulée et écouté les doléances de chacun. Donc je fais un petit rappel de pourquoi les associatifs font ça. C'est avec cette distribution, donc il s'agit de s'adresser à des personnes isolées qui ne savent pas forcément où sont les autres points de distribution et des personnes donc, qui dorment dehors. Et donc ils sont sur le parking d'une église et il n'appartient pas aux habitants. Ce parking, c'est un espace public et il reste quelques minutes, au maximum une heure chaque soir. Donc c'est, vous voyez, ça dérange pas toute la soirée les habitants. Il n'y a pas de nuisance sonore sur ce moment de distribution. Et pour autant, donc une fois que la police a écouté donc ces doléances mardi, et donc au terme d'une heure où les flics ont bloqué la distribution de vêtements, donc ils ont fait passer le message aux associations de trouver un autre lieu pour venir en aide aux migrants et aux migrantes, et que donc il faut qu'ils le fassent et que ça serait donc préférable. Donc on voit tout de suite de quel côté ils sont rangés, parce que c'est la police. Et les habitants ont quant à eux prévenu, si la camionnette associative se représente rue de Pontrouille, ils passeront de nouveau leur véhicule pour les empêcher de distribuer des fringues. Voilà, je prends un peu de temps pour quelque chose qui semble anecdotique. Pour moi, ça ne l'est pas. C'est vraiment des histoires de positionnement et d'assumer et de ne pas avoir honte de laisser mourir des gens à côté de chez soi.
Canu Info.
Et pour finir ce Canu Info, nous allons parler des sales chômeurs. Donc, quelques chiffres sont parus sur un site qui s'appelle le Centre d'observation de la société. Donc, accrochez-vous, c'est plein de chiffres, mais c'est très intéressant. 30% des chômeurs ne touchent aucune indemnité et 42% un maximum de 500 euros par mois. C'est bon, vous avez suivi?
Ouais, jusque-là c'est facile.
Les deux tiers ont moins que le SMIC et seuls 5% empochent plus de 2 000 euros. Régulièrement, le régime d'indemnisation des demandeurs d'emploi est accusé d'être trop généreux avec des gens qui ne travaillent pas, d'inciter les chômeurs à rester chez eux. Mais c'est loin d'être la réalité. Selon les données de Pôle emploi, les chômeurs reçoivent en moyenne 1170 euros net par mois d'indemnité, soit le niveau du SMIC net. Ce qui, à première vue, ne semble pas si mal d'arriver à toucher le SMIC. Sauf que ce chiffre ne signifie pas grand-chose car il ne porte que sur les chômeurs qui reçoivent une indemnité. Et donc, ce site-là, le Centre d'observateurs de la société, a réalisé une estimation qui prend en compte les oubliés du calcul de Pôle emploi. Et donc, je vais vous dire les chiffres, ça n'a plus rien à voir, bizarrement. Donc, aux 2,18 millions de demandeurs d'emploi indemnisés par le régime général de l'assurance chômage, donc ça, c'est des données qui ont été produites à la fin décembre 2017. Il faut tout d'abord ajouter près de 400 000 personnes qui perçoivent l'allocation spécifique de solidarité. Donc cette allocation est versée par Pôle emploi aux chômeurs qui ont épuisé leurs droits du régime général, la fameuse ASS. Elle s'élève à 494 euros par mois, deux fois moins que le minimum vieillesse ou l'AAH, l'aide aux adultes handicapés. Il faut ensuite compléter avec ceux qui ne touchent rien. En France, la moitié des chômeurs n'ont aucune indemnité. Parmi eux, il est vrai qu'une partie exerce une activité réduite et peut donc toucher un peu d'argent et peut donc un peu toucher un peu d'argent à côté. Et si on ne prend pas en compte la catégorie A, la plus restrictive sans aucune activité, 40% ne perçoivent aucune indemnité, soit 1,4 million de personnes. Donc l'immense majorité des chômeurs ne perçoivent que des très faibles sommes chaque mois. 2 millions doivent se contenter de moins de 500 euros. Ils ne s'en sortent qu'avec le soutien d'autres allocations familiales notamment ou l'aide de proches. Pourquoi alors sont-ils montrés du doigt par l'ensemble de la société? Un nombre important de salariés travaillent et ne perçoivent que de très bas salaires. Leur présenter les chômeurs comme boucs émissaires constitue une façon de détourner leur attention, notamment des écarts de salaire au sein de leur entreprise ou de la collectivité publique dans laquelle ils travaillent. Donc, ça c'est intéressant, c'est comment on en revient à des rapports de classe et à remettre en question les salaires de la hiérarchie et des patrons, plutôt que de se tirer des balles entre les personnes pauvres. Voilà, ce Canu Info tire à sa fin. J'aurais adoré vous diffuser le jingle pour annoncer la soirée fabuleuse qu'il va y avoir dans ces studios le 8 mars. Mais le jingle n'est plus dans le studio, il a été perdu. Donc je vais vous l'annoncer. Donc le 8 mars, de 17h jusqu'à pas d'heure, il va y avoir de la radio féministe. C'est les équipes de Lilith Martinez et les autres et On n'est pas des cadeaux. Des émissions féministes de Radio Canu qui fêtent leurs 10 ans et demi d'émission. Et donc, il va y avoir plein de sons féministes, que ce soit du slam, des chansons, de la musique et des infos très très sérieuses. Bref, plein de choses à écouter, très chères auditrices et auditeurs. Et pour les auditrices, n'hésitez pas à venir dans les studios pour boire un coup et puis parler à l'antenne si ça vous chante.
Et ben voilà, on se retrouve la semaine prochaine.
C'est ça.
Et en attendant, on vous laisse avec 25 minutes de petite musique automatique en attendant. Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes, à 20h.
Et ben bonne soirée.
Ciao.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.